J'ai envie, au cours de la prochaine heure, de vous demander un peu si cette pandémie a eu sur vous des impacts par rapport à votre santé mentale. On vient beaucoup de parler des symptômes physiques, des séquelles d'ailleurs, je le rappelle, chez le tiers des gens qui ont été affectés par la COVID-19. Il reste dans un cas sur trois de patients des séquelles qui peuvent aller de la fatigue chronique jusqu'à des problèmes encore d'odorat ou d'autres complications. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Il y a d'autres choses qui peuvent nous affecter, ne serait-ce que dans la socialisation ou non, hein, de nos rapports éloignés maintenant. La durée aussi de la pandémie qui est indéterminée. Puis là, devant le nombre de cas qui augmente chaque jour, on est obligé de se dire, bon, ben visiblement, ça va durer encore quelques temps. Combien de temps? Quand on ne sait pas, tout cet inconnu qui nous entoure peut générer beaucoup d'anxiété chez nous, chez nos enfants, chez nos proches. C'est la question que je vous pose. Est-ce que la pandémie vous a rendu anxieux? Si vous l'étiez déjà un petit peu, êtes-vous encore plus anxieux? Appelez-moi pour témoigner de ça. 514-790-9850 1-866 de l'extérieur de Montréal 1-866-790-9850. La docteure Céline Lamy est pédopsychiatre à l'hôpital de Saint-Jérôme. Elle a aussi écrit le livre « Il pleut à la maison ». Parler de votre santé mentale avec vos enfants. On ne parlera pas que des enfants, docteur Lamy, mais merci de prendre le temps de nous parler de cet enjeu.
Bonjour Isabelle.
Bonjour. C'est vrai, je voulais savoir, est-ce que la pandémie pourrait être considérée éventuellement comme un traumatisme chez certaines personnes, docteur Lamy?
Tout à fait. En fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que tout peut faire traumatisme. On imagine souvent quand on parle d'un traumatisme, ce que on parle d'agression ou de choses. En fait, tout peut faire traumatisme. En fait, un fait vécu par la même personne, par une personne différente, en revanche, la réaction à ce traumatisme va être infiniment variable et va pouvoir créer un post-trauma. Donc oui, effectivement, la pandémie, pour plusieurs facteurs dont on va parler après, chez les enfants, les ados et les adultes, peut être source de traumatisme et de symptômes post-traumatiques.
Ben, parlons de ces facteurs, justement, selon les âges ou selon les générations.
Tout à fait. Alors, chez les enfants, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont été très, très, très confrontés à des images très crues qu'ils ont absorbées, mais absolument pas digérées, parce que souvent, ça n'a pas été assez expliqué. On pense avoir assez expliqué, mais pas assez. Ils ont été aussi confrontés à des mots, à des discussions entre les parents. Et puis aussi, ce qu'on oublie, c'est à une indisponibilité psychique relative de leurs parents. Oui, les parents ont été beaucoup plus présents physiquement du fait du confinement, mais beaucoup d'entre eux, nous, je m'inclus là-dedans, ont été moins présents psychiquement pour les enfants parce que anxiété ou nos réalités matérielles. Donc l'enfant, en fait, sent qu'il se passe quelque chose, mais il ne comprend pas tout. Et on sait que pour être résilient, il faut faire du sens dans ce qu'on vit, sinon l'angoisse émerge. Alors, nos petits loulous, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait alors qu'ils ont saisi quelque chose se passer? Ils ont utilisé ce qu'ils font beaucoup, c'est la pensée magique de la toute-puissance, à savoir s'il se passe quelque chose pour mes parents, pour ma famille, à l'école ou même dans le monde, ben c'est peut-être que j'en suis responsable. Et dans l'histoire du Covid, malheureusement, ben oui, effectivement, l'angoisse a émergé parce que nos enfants ont essayé de créer du sens face à des choses qu'ils n'avaient pas compris.
Wow, c'est quelque chose ce que vous nous racontez, que certains enfants peuvent penser qu'ils sont responsables de...
Très souvent. Ouais, j'en parle dans mon livre, justement, par rapport à la maladie des parents, quand les enfants sentent qu'il se passe quelque chose, mais qu'on leur cache, ben effectivement, ils vont se dire si maman est malade, si papa va pas bien, est-ce que peut-être je suis responsable, peut-être que je suis pas un bon garçon ou autre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très connu chez les enfants, cette sorte de pensée magique. Ils pensent à la fois que ce qui arrive de très beau chez eux, ben, ça peut être leur responsabilité, mais malheureusement, oui, ce qui peut être dramatique, souvent les enfants se imputent la responsabilité.
Il y a les ados aussi, dont on a beaucoup vu les rituels ont dû être mis sur la glace. On a vu beaucoup de jeunes du fin de secondaire ou du cégep là, qui n'étaient pas capables de vivre leur bal de finissant. Bon, les amis, les sorties. Puis là, on voit que parmi les nouveaux vecteurs de contagion, ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes là, qui ont comme... C'est comme si tous ces 6 mois, là, au bout de 6 mois, là, c'est comme tout le monde est tanné, on sort, puis advienne que pourra. Il y a quelqu'un m'écrivait tout à l'heure, « Hey, on a juste une vie à vivre. » Fait que vous dites que les ados ont été très touchés, peut-être les plus grands.
Plus Ouais, plus les plus touchés pour d'autres facteurs encore. Un ado, par définition, c'est un petit adulte qui va transgresser, qui va frôler la limite. Or, en temps de Covid, frôler la limite, transgresser, c'était synonyme de mortel ou de dangerosité. Donc, le paradigme déjà était complètement différent. Des ados qui ont été obligés d'être dans un immobilisme, alors que c'est effectivement en général des un besoin de mouvement, puis le besoin que les ados ont de couper le cordon symbolique avec les parents a été empêché par le confinement. Donc, il y a eu effectivement de nombreux rituels de passage qui sont indispensables pour les adolescents qui ont été annulés ou remis en cause, de nombreux deuils qui ont été autant de petits traumatismes répétés. Et puis, il faut le dire, les adolescents ont été beaucoup plus confrontés aux fausses nouvelles via les réseaux sociaux. Et on sait que les adolescents adhèrent beaucoup plus aux théories complotistes. Donc, il y a eu un flou informationnel chez les ados qui a véhiculé, je dirais, beaucoup plus de méfiance, perte de repères et beaucoup plus d'anxiété chez eux.
Mmh. C'est intéressant, vous dites le rituel de passage qui fait que à partir d'un certain âge, tu dois couper le cordon avec tes parents.
Mais ça fait effectivement partie symboliquement, il y a deux coupures.
Voilà, puis là, ils étaient pris avec leurs parents dans la même maison, finalement.
Exactement. Cette coupure symbolique est vraiment importante. Hein. On parle de différenciation. Puis c'est l'adolescent qui coupe symboliquement le cordon en socialisant, en étant avec ses pairs. Le problème du confinement, c'est que là, cette coupure n'a pas pu être faite. Donc, il y a eu une tension, je dirais, entre ados et parents qui a été beaucoup plus importante à ce moment-là. Puis oublions pas, malheureusement, que beaucoup d'enfants et d'adolescents ont été confrontés pendant le confinement à plus de violences conjugales, plus de violences familiales, qui sont effectivement des traumatismes forts. Puis c'est des traumatismes qui étaient empêchés quand on allait à l'école. Donc oui, il va y avoir une vague beaucoup plus importante de post-trauma, c'est évident.
Les adultes, évidemment... Il y a beaucoup de gens âgés qui l'ont vécu très durement parce qu'ils l'ont attrapé, ils sont ramassés aux soins intensifs. Et pour ceux qui ont réussi à s'en sortir et à pas y laisser leur vie, ça va sans doute être un traumatisme très frais dans la mémoire. Il y en a d'autres, vous parlez des jeunes qui étaient plus influencés par les théories du complot. J'en parlais hier justement avec Christian Page, mais qui est spécialiste du paranormal, qui s'est intéressé à tout ce sujet-là, des complotistes. En même temps, on voit qu'il y a beaucoup de plus âgés, je dirais les 55 et plus, beaucoup des hommes de 55 ans et plus là, qui adhèrent aussi à ce genre de théorie comme s'ils étaient, un peu comme des ados là, finalement, comme s'ils étaient plus enclins à croire et à multiplier les fake news là-dessus. Évidemment, là, on parle de traumatisme, mais aussi, bon, la façon dont on est touché, c'est différent pour chacun.
Là. Oui, exactement. Puis par rapport à l'information, ça fait partie aussi d'un des critères de résilience, la façon dont on est informé, la façon dont on a confiance envers les autorités, dont on comprend ce qui se passe par rapport au Covid, c'est un facteur de résilience. La façon dont aussi les adultes se sont adaptés, ont été proactifs face à tout ça et ont donné du sens à ce qu'ils vivaient. Il y a deux types de personnes qui ont vécu ça. Ceux qui ont été dans une posture plus passive, puis qui ont subi les événements, qui ont regardé ça de loin, puis qui ont anticipé négativement sur ce qui allait se passer, ont été beaucoup plus à risque de post-trauma, alors que ceux qui ont essayé de faire quelque chose de cette adversité, qui ont donné du sens à ce qu'ils vivaient, ont été créatifs, sont passés un peu plus au travers les gouttes du traumatisme. Certains se sont réinventés complètement, puis ont développé aussi beaucoup plus de liens sociaux, paradoxalement, alors qu'on était confinés avec de l'entraide. Il y a eu beaucoup plus beaucoup plus d'entraide dans ces phénomènes-là, puis ça a participé à la résilience pour certains.
On va aller du côté de nos auditeurs, parce que bien des gens veulent intervenir là-dessus. Je vous pose la question, est-ce que vous avez remarqué que après 6 mois de pandémie, aujourd'hui, oui, vous êtes plus anxieux que vous l'étiez. Ou peut-être il y a des gens qui n'ont pas connu ça, l'anxiété, avant, mais qui aujourd'hui doivent se rendre compte qu'effectivement, ils ressentent certains symptômes d'anxiété. On va revenir avec la docteure Lamy sur les symptômes, d'ailleurs, parce qu'il y a des vrais symptômes physiques, hein, l'anxiété ancrée. Lise, bonjour. Je commence avec vous. On vous écoute, Lise.
Oui, bonjour Isabelle, notre animatrice hors pair.
Merci.
Je suis dans le groupe d'âge des 70 ans et plus. J'ai 73 ans et j'ai vécu le confinement difficilement parce que j'ai dû déménager le 1er avril en plein dans la pandémie, pas par choix, par obligation. Et le mois suivant, ma sœur adoptive, j'ai pas de frères, d'autres frères ni d'autres sœurs, décédait après une journée et demie à l'hôpital seulement. Elle n'est même pas décédée de ce pourquoi elle est rentrée à l'hôpital et était négative au COVID.
Donc, aujourd'hui, vous êtes plus anxieuse, vous vous rendez compte de ça, Lise?
Oui, il y a des journées où c'est très intense, difficile. Par exemple, hier, j'ai dû téléphoner à Suicide Action, pas parce que je voulais m'enlever la vie, mais parce que, bon, je me demandais qu'est-ce que je foutais ici, sur la Terre. Et je sais que c'est une ligne où ils répondent en personne, on tombe pas sur un répondeur, donc ça m'a fait du bien, mais... c'est pas moi, ça, habituellement. Oui, j'ai des hauts et des bas, comme tout le monde, mais je rebondis habituellement assez rapidement. Mais disons que là, avec l'inquiétude, comme vous avez dit tantôt, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, ce fichu microbe-là. Ouais. Là, ouais. On se pose des questions. Et juste le fait qu'on a l'impression d'avoir peur de tout le monde, dans le sens qu'on tient nos distances, c'est pas normal, ça non plus.
Vous avez raison,
Lise. Ça nous affecte.
Oui, merci beaucoup. Guy, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
On vous écoute, Guy.
Oui, ça va bien?
Oui, ça va bien, vous?
Oui. Bon, moi, contrairement à la dame qui vient juste de parler, moi, je me dis, écoute, c'est pas grave. S'il arrive de quoi, il arrive. Moi, j'ai plus de rate depuis déjà 30 ans. Quand je suis au printemps, quand ça a commencé, j'ai vu mon médecin de famille. J'y ai demandé, j'ai dit, le COVID, là, s'il vient me voir, ben, il dit, s'il vient te voir, toi, il n'y a pas de remède, tu vas mourir, t'as plus de rate. Puis, j'étais en Alberta quand c'est arrivé, ça, à Calgary. Là, je viens de revenir, ça fait 3 semaines. Puis, je suis venu dans le lit à COVID, comme on dit. Je suis dans le coin de Blainville.
Ouais.
Mais je fais attention, je veux dire.
Oui, mais j'allais vous demander ça parce que vous dites, votre médecin vous a dit, si tu prends la COVID, c'est sûr que toi, tu meurs.
Oui, c'est ce que tu me
dis. Quand on se fait dire ça, je veux dire, c'est pas comme une. Moi, j'aurais peur d'attraper.
Je compterais pas toute ma vie, là, mais tout ça pour dire, regarde, je suis rendu à 56 ans. On va tous mourir.
Ouais.
Tout ce que je disais.
Mais vaut mieux tôt, vaut mieux tard que tôt, mettons, Guy. On s'entend?
Non, j'aimerais mieux mourir en santé comme tel que de mourir à 85 ans malade d'Alzheimer ou whatever. Là,
ah ouais, ouais, ouais.
Mais je fais attention, ça fait des années que je vois plus d'un bord. Je bois pas, je chauffe pas de camion, fait que j'ai besoin de garder mon permis de conduire.
Ouais.
Non, je me dis, s'il arrive de quoi, il arrivera, qu'est-ce que tu veux?
Ouais.
Tout ce que j'espère, c'est que si ça arrive, qui vont me donner des bons médicaments pour me geler, entre guillemets, là, tu comprends?
Ouais.
La souffrance, ça ne me tente pas.
Ouais, je comprends.
Mais sinon, que
merci, Guy, merci beaucoup. Bouba, bonjour.
Oui, bonjour, madame, ça va bien?
Ça va, on vous écoute, Bouba. Votre expérience avec la pandémie, est-ce que vous êtes anxieux aujourd'hui à cause de ça?
Oui, madame, j'ai toujours été, et puis j'ai essayé de contrôler mon anxiété. Jusqu'au, j'ai perdu le 14 juillet, j'ai perdu mon frère, qui m'a décédé 3 jours de COVID, 4e jour, il est parti. Alors, depuis ce temps-là, ça a empiré. Mon médecin de famille, je l'ai vu plusieurs fois, puis elle me donnait toutes sortes de traitements pour les angines, elle a dit, monsieur Bouba, vous avez l'anxiété. Elle m'a prescrit 2 fois qu'elle prescrit des médicaments, genre antidépressants, mais là, j'ai refusé. Je dis non, je prendrai jamais ça. Donc, il n'y a pas d'autre chose à faire pour vous parce que je vis avec l'espoir que ça va partir, puis l'anxiété, ça va partir avec. Mais je veux pas y aller à prendre des médicaments antidépresseurs parce que je veux pas vraiment me droguer avec ça.
Mm-hmm. Des fois, ça peut aider beaucoup de gens. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'interviewer beaucoup de même des personnalités qui ont publiquement dit qu'elles avaient des problèmes d'anxiété, de dépression et qui ont pu bénéficier de traitements médicamenteux qui les ont aidés. Il y a des gens pour qui ça dure peu de temps. Il y en a qui prennent des médicaments toute la vie, puis il y en a qui n'en prennent pas. C'est sûr que il y a un moment donné, on peut s'aider, mais il faut être aidé aussi. Merci, Bouba. Évidemment, docteur Lamy, vous êtes psychiatre, donc c'est sûr qu'il y a la médication qui peut aider quand on est vraiment très, très, très en souffrance, qu'on a de l'anxiété, de la dépression. On va y revenir, si vous voulez bien, d'ailleurs, après la pause, avec des commentaires de nos auditeurs, bien sûr, 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Je vous demande si la pandémie vous a rendu anxieux. À tout de suite. We're stressed out. Je pense qu'on peut tous le dire, qu'on a un petit niveau d'anxiété un petit peu plus élevé depuis les 6 derniers mois. Je veux dire, ce qu'on a vécu, c'est normal d'avoir été affecté par ça. Après, tu es plus ou moins affecté selon ton tempérament, selon ton type de personnalité. Il y en a pour qui, puis la docteure Lamy, notre invitée, le disait, la pandémie a carrément été un traumatisme, entre autres chez les enfants, les pédopsychiatres, ça peut en être un, mais chez d'autres personnes aussi. Les ados, elle nous le disait, avaient été sans doute les plus grandes victimes de la pandémie parce que les rituels ont été freinés, empêchés, puis ça a un impact dans ta vie. On va parler tout à l'heure à Vincent, dont la conjointe vient d'accoucher, qui va nous dire également comment elle a vécu ça. Mais Yves nous appelle, très anxieux, Yves, puis on le comprend. Bonjour Yves.
Bonjour Isabelle.
Vous avez été très malade quasiment tout l'été?
Effectivement, rapidement un résumé. Moi, j'ai rentré à l'urgence le 10 de mai. J'ai été hospitalisé jusqu'au 9 juillet. J'ai passé par un 25 jours de coma, intubé, trachéostomie. Je suis sorti, comme je vous dis, le 9 juillet et tout a bien été cet été, sauf que toujours en réadaptation. Et à ma grande surprise, le 31 août, petit mal de gorge. Oups, là, ça m'inquiète. J'essaie de trouver un médecin. Je me rends à l'urgence le 3 septembre. Il me passe un test de COVID. À ma grande surprise, nouvellement positif.
Oh mon Dieu,
je rentre dans les statistiques. Que se passe-t-il? Immunité pendant 90 et 120 jours, selon les avis des médecins. Et là, je suis sur un stade de recherche parce que hier matin, je suis allé repasser d'autres tests de COVID, deux, un après l'autre. Après ça, un test pour vérifier si j'aurais des bactéries dans ma gorge et prise de sang. Donc, je suis en attente d'avoir des nouveaux résultats. Il se pourrait que je rentre dans les statistiques de la COVID-19. Donc, imaginez, très anxieux depuis le 31 août.
Mais Yves, juste pour être clair, cet été, là, 25 jours de coma, c'était parce que vous aviez la COVID?
Effectivement. Ouais. Je suis rentré d'urgence le 10 mai, suite à la COVID.
Suite à la COVID. Et là, vous aviez testé positif pour la première fois à la COVID.
Exactement.
Ouais. Et là, à nouveau, la première semaine de septembre. J'entendais la Dr Couache qui disait l'autre jour qu'il pouvait y avoir des restants de particules de virus et que ça pouvait faire en sorte que les gens testent donc positif encore COVID, mais dans le fond, qu'ils étaient plus asymptomatiques et qu'ils étaient plus affectés non plus par la maladie comme telle. Mais dans votre cas, est-ce qu'on vous a donné plus d'informations?
Je vais en savoir un petit peu plus suite aux tests qu'ils m'ont fait repasser hier matin.
Hier matin,
j'attends les résultats impatiemment pour avoir des notions puis me dire est-ce que je me rassure un petit peu plus. C'est sûr que je suis moins symptomatique que je l'étais au début, sauf que on reste toujours sur une, comme on dit, sur une interrogation.
Avez-vous des symptômes? Avez-vous des séquelles? Je disais tout à l'heure, il y a le tiers des patients qui l'ont eu, là, qui en ont gardé des séquelles, plus ou moins importantes dans votre cas, Yves?
Ben oui, les séquelles, moi, je suis toujours très fatigué. Moi, je suis une personne de 63 ans, très actif. Mm-hmm. Et du jour au lendemain, pouf, la COVID. Et là, je suis énormément fatigué. Je cours toujours après mon souffle parce que mes poumons ont été largement affectés. Donc, j'ai pas perdu le sens de l'odorat, du goût. J'ai pas perdu aucun sens à ce niveau. Mais la fatigue, ça me récupère. Il faut toujours que je prenne une petite sieste d'un 3-4 heures par jour pour essayer de passer ma journée parce que c'est très, très, très demandant.
Ouais. Et là, l'anxiété se rajoute à ça. Vous savez que l'anxiété, ça fatigue aussi, là, être anxieux. Là. Ça nous prend beaucoup d'énergie.
Énormément. Ouais. Énormément, c'est sûr.
Yves, restez en ligne parce que je vais prendre vos coordonnées. Je voudrais faire un suivi, bien sûr, avec votre cas. Wow, c'est quelque chose. Vincent est avec nous. Je vous disais que Vincent, bon, il vient d'avoir un nouveau bébé. C'est un événement fabuleux dans la vie. Là. C'est un événement parmi les plus heureux. Je pense que c'est pas mal ça qui top les événements heureux de notre vie, Vincent, d'avoir un enfant. Votre conjointe, toutefois, l'a vécu difficilement. Elle a fait un postpartum. Son niveau d'anxiété doit être assez important en ce moment-là.
Oui, ben en fait, c'est ça. Mon fils est né le 5 mars. Une semaine avant le confinement.
Ouais.
Puis, à partir de là, ça a été bien pendant 6-7 semaines. Puis, environ à la mi-mai, elle a commencé à faire beaucoup d'anxiété là, concernant le retour parce qu'on a un autre plus grand qu'il fallait qu'il retourne à l'école. Puis, on savait pas si c'était une bonne idée avec le bébé et tout ça.
Ouais.
Ça a créé de l'anxiété. Puis, à partir de là, elle a commencé à faire des psychoses et tout ça. Elle a été obligée d'être hospitalisée à l'hôpital. Elle a été là 8 jours. Elle pouvait pas voir ni le bébé, ni nous autres parce que c'était le confinement. L'hôpital était rouge. Elle est revenue après 8 jours, même si elle n'était pas tout à fait prête, mais c'est parce qu'elle voulait qu'elle voit le bébé. Puis ensuite de ça, un mois après, elle a refait une autre rechute. Elle a été 14 jours à l'hôpital. Puis ça commence, là, tu sais, ça date de mi-mai, puis ça commence depuis peut-être une semaine à aller un peu mieux. Puis par la bande, ben là, moi, mon médecin m'a prescrit des antidépresseurs. J'avais jamais pris ça de ma vie, mais étant donné les circonstances, parce que je dois m'occuper des deux enfants, j'ai eu de l'aide de mes beaux-parents quand même. Puis là, avec les circonstances, il ne voulait pas prendre de chance. Fait que j'ai des antidépresseurs depuis à peu près un mois.
Ça vous aide?
Oui, c'est sûr que ça m'a aidé. Je le remarquais pas moi-même. Je pensais pas que j'en avais besoin. Quand mon médecin m'a demandé s'il pensait que c'était une bonne idée, moi j'ai dit ben je sentais que j'étais correct, mais finalement je le remarque là, avec les antidépresseurs. Je pense que je serais peut-être pas passé au travers.
C'est important. Ça. Ben tant mieux si vous avez pu trouver ce soulagement-là. Vincent, c'est sûr que bon, des postpartum, c'est un état qui est documenté. Et ça tient pas de la COVID, mais est-ce que c'est clair qu'avec l'élément COVID, ça rajoute.
C'est ça. On pourra jamais savoir si c'est ça, mais on sait que l'anxiété qu'il y a eu du retour à l'école, il fallait qu'on décide est-ce qu'on l'envoie ou pas. Parce que notre garçon, il adore l'école. Fait que là, on veut pas le pénaliser. Il est tanné d'être à la maison, mais en même temps, on a un bébé, on savait pas si les nouveau-nés étaient à risque. Puis tout ça fait qu'on avait, même moi, là, j'avais de l'anxiété à ce moment-là. Puis je pense que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase.
Sans doute. De son côté. Je vous souhaite de vous remettre tous les deux. Puis bon courage, Vincent. Merci beaucoup. Restez en onde. Je vais prendre vos coordonnées. Merci bien. Docteur Céline Lamy est pédopsychiatre. Je conclue avec vous, docteur Lamy. Là, on entend des témoignages de gens là, qui vivent beaucoup d'anxiété. Dans le cas de Vincent, de sa conjointe en postpartum, c'est sûr que c'est un état qui peut arriver hors pandémie. La pandémie vient, d'une certaine façon, augmenter l'anxiété dans ce cas-là.
Tout à fait. C'est comme un accélérateur, effectivement, puis qui est venu toucher les personnes les plus vulnérables, ceux qui avaient déjà des antécédents de santé mentale. Puis oui, on n'y pense pas assez, mais une femme enceinte, un postpartum, qui sont des facteurs de vulnérabilité, oui. Là encore, je pense qu'il va falloir être très, très, très vigilant à toute cette population parce qu'effectivement, il y a la crainte pour l'enfant, la séparation. J'ai eu un bébé le 2 avril, donc je parle en connaissance de cause. Puis ça a été extrêmement anxiogène d'être... j'ai dû retourner à l'hôpital après. J'ai été séparée 10 jours de toute la famille et du bébé. Oui, ça laisse des traces, même au niveau de l'attachement avec nos petits loups. Donc, on fait partie, je dirais, d'une population qu'il va falloir vraiment surveiller de près au niveau du post-trauma, vraiment.
Merci beaucoup, Dr Céline Lamy.
Merci à vous.
Pédopsychiatre à l'hôpital de Saint-Jérôme. C'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir, bien sûr, et ce n'est pas terminé, puisqu'après la pause, je vais vous donner l'occasion encore de témoigner. Est-ce que la pandémie vous a rendu anxieux? On va se mettre aussi en mode solution, parce que une fois qu'on sait ça, on va demander au docteur Marquis, vous vous souvenez? Pensouillard, le petit hamster, il dit tout le temps, arrête ton hamster dans ta tête. Il faut arrêter de ruminer tout le temps notre propre anxiété. Pas toujours facile à faire, fait qu'il va nous rappeler les règles de base pour y arriver. Et bien sûr, vos commentaires au 514-790-9850. Et puis de l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. À tout de suite.
Je n'ai point sorti, je ne cherche pas à dormir. Je n'ai point sorti, je ne cherche pas à dormir. Aucun rassemblement ne s'éveille sur la jambe. Au champ de la quarantaine, je veille. Je dors, j'écoute les nouvelles et puis je
Avec nous, le docteur Serge Marquis, qui est médecin, auteur, conférencier. Il a écrit, entre autres, Pensouillard, le hamster. Et je vous rappelle que Pensouillard, c'est cette petite bibitte là qui fait de l'exercice dans notre tête, qui nous empêche des fois de dormir, qui nous crée de l'anxiété et qu'on espère pouvoir un jour arriver à dompter. Mais c'est pas toujours facile. Bonjour, docteur Marquis.
Bonjour, Isabelle.
Comment va votre Pensouillard à vous en ces temps de pandémie?
Ah ben écoutez, il y a un peu comme tout le monde là, je pense qu'il est boosté aux stéroïdes puis qu'il y a des cuisses d'acier là. Alors j'essaie au maximum de le calmer, c'est ça que j'essaie de faire.
C'est pas évident.
C'est vraiment Il y a quelqu'un qui a déjà dit, c'est simple, mais c'est difficile. Mmh. Alors, c'est simple parce que pour le calmer, bien, il faut toujours ramener notre attention sur quelque chose de concret. Et c'est ça qu'on a de la misère à faire parce que notre attention, elle s'en va toujours fabriquer les scénarios du pire, des catastrophes. Puis c'est normal qu'elle fasse ça. Parce qu'elle veut garder le contrôle sur notre vie, elle veut maintenir notre sécurité, elle veut nous protéger, assurer notre bien-être. Alors pour faire ça, bien, elle fabrique tout ce qui pourrait nous arriver de pire, puis elle essaye de garder le contrôle là-dessus. Le problème, c'est que quand on essaie de fabriquer le pire, on n'est pas toujours en train d'élaborer des pistes d'action parce qu'il y a des affaires sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Mm. Donc, la chose sur laquelle on a du contrôle, cependant, c'est vraiment notre attention, c'est vraiment notre esprit. Puis ça, c'est pas facile, mais il faut le ramener tout le temps dans le présent.
Parce que là, il y a cette anxiété qu'on se crée finalement un peu contre nous parce qu'on ne le choisit pas. On finit par se l'imposer, mais bon, comment la freiner? Là, vous dites, bon, ces stratégies-là, il faut s'aider, il faut... Comment passer à travers sans sombrer dans l'anxiété? Là?
Des choses très simples. Une feuille de papier, un crayon, une ligne pour faire deux colonnes. Mm-hmm. Puis dans la première colonne, là, j'écris ce qui se passe dans ma tête, là, parce que je veux reprendre le contrôle là-dessus. Mes peurs, c'est quoi? De quoi j'ai peur présentement? Qu'est-ce qui m'inquiète? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Mon cerveau est en train de fabriquer ça, là. Alors, je l'écris pour pouvoir prendre un recul vis-à-vis ça. Puis, dans la colonne de droite, là, j'écris, OK, où est mon contrôle, là? Sur quoi j'ai du pouvoir? C'est quoi l'inventaire des pistes d'action que je peux faire? Puis, c'est quoi les choses sur lesquelles j'en ai pas de contrôle pour le moment? Quand je le fais, là, concrètement, je prends un recul, puis je récupère un peu de pouvoir sur ma vie, plutôt que de laisser aller mon imagination vivre, fabriquer des catastrophes, parce qu'un coup que l'imagination les fabrique, là, mon corps, lui, il fait pas la différence entre ce que j'ai fabriqué puis la réalité. Il vit le scénario catastrophe comme si c'était réel. Alors là, je deviens anxieux. Là, des hormones du stress, là, ça déferle au maximum dans mes vaisseaux sanguins. Et puis aussi la déprime, hein, parce que je me sens impuissant, j'ai l'impression de ne pas avoir de pouvoir sur ce qui mon cerveau fabrique. Donc, quand j'arrive là, ça peut être à mon ordinateur que je fais ça, là. C'est quoi l'inventaire des choses là que je pense qu'il pourrait m'arriver de pire? C'est quoi qui m'inquiète? C'est quoi vis-à-vis de quoi j'angoisse? Puis dans la colonne de droite, où est mon pouvoir? Mm-hmm. Sur quoi j'ai du contrôle? Quelles sont les pistes d'action que je peux faire? Puis je suis pas obligé de faire ça tout seul dans mon coin, là. Si j'ai de la misère à le faire, ben je vais chercher de l'aide. Deux têtes, trois têtes, quatre têtes. Garde, c'est ça dont j'ai peur. Qu'est-ce que je pourrais faire vis-à-vis de ça? Qu'est-ce que t'en penses? As-tu des idées là-dessus? As-tu déjà vécu ça, toi? Mm. C'est vraiment important là, de se soutenir là-dedans puis de mettre en commun nos intelligences, nos lucidités, nos créativités, pour essayer de retrouver une forme de contrôle sur notre vie, un sentiment de pouvoir, puis laisser aller, lâcher prise, les choses sur lesquelles j'en ai pas de pouvoir. On revient toujours à ça, mais c'est la sagesse de base, ça. Puis c'est fondamental d'y revenir, d'avoir la vigilance. Parce que quand je perds conscience de ça, là, quand je laisse aller mon hamster, justement, dans tous les sens, ben mon corps, il va vivre nécessairement le stress, il va vivre nécessairement le sentiment d'impuissance, puis il va vivre nécessairement l'angoisse, l'anxiété, la déprime.
Mais c'est quand même, puis Pensouillard, il tourne là, sur une espèce de petit trou de hamster là, dans notre tête, bien sûr. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une roue qui tourne aussi dans notre tête, dans la mesure où moins on dort bien, plus ça contribue aussi à notre niveau d'anxiété. Plus on est anxieux, moins on dort bien. Tu sais, à un moment donné, ça devient là, c'est l'œuf ou la poule. Là, mais donc concrètement, quand vous dites là, faut lâcher prise. Là, j'attendais que vous le disiez, vous l'avez dit. Ouais. Ça, c'est le genre d'affaire. Tu dis ok, mais comment on fait ça, lâcher prise là? Comment ça se fait que j'ai un serrement dans la poitrine? Comment ça se fait que je respire pas, que je suis en apnée? Comment ça se fait que je dors pas bien puis que je me fais des scénarios du pire, comme vous dites là? C'est comment on arrive à lâcher prise sur ces angoisses qu'on a en ce moment là?
Parce que la raison pour laquelle je ressens tout ça, là, c'est la peur. Puis la peur, elle veut me protéger, elle. Hein, ça, c'est une réaction normale, primitive, saine de l'être humain qui a permis à l'espèce humaine de survivre, la peur. Le problème, c'est quand ça devient de la panique. Parce que quand ça devient de la panique, à ce moment-là, j'ai plus le contrôle sur ma vie. Pour faire ça concrètement, là, je reviens à ce que je disais. Faut que je fasse l'inventaire des pistes d'action en identifiant les situations que je crains, ce qui me fait peur. Puis pour les identifier, il faut que je m'arrête. Il faut que je les écrive. De quoi j'ai peur? Qu'est-ce que mon cerveau, qu'est-ce que j'ai dans ma tête présentement qui m'inquiète? C'est-tu de perdre ma job? C'est-tu de perdre ma femme, mon mari, parce qu'ils ne peuvent plus m'endurer? C'est de quoi j'ai peur? C'est-tu que mes enfants...
C'est peut-être de plus retrouver de travail. C'est peut-être exact. D'attraper la COVID. C'est peut-être
d'attraper la COVID dont j'ai peur. C'est-tu que mes enfants l'attrapent? Je l'écris, là, mais j'ai peur que mes enfants attrapent la COVID. Et là, à droite, là, je fais, OK, qu'est-ce que je peux faire devant cette situation-là? Je peux-tu les protéger, mes enfants? Je peux-tu, si j'ai peur de perdre ma job, peux-tu aller trouver de l'information en rapport avec ça? Ou si jamais je la perds, ma job, peux-tu m'organiser pour en trouver une autre? T'sais, moi, je l'ai vécu, ça. Mon père, il a perdu sa job. Il n'était pas en COVID, là, mais il avait 56 ans puis il était pré-retraité avec tous les hommes de 50 ans et plus. Il a déprimé. Pendant 3 mois, il était malade. Il a eu des problèmes cardiaques par la suite, jusqu'au jour où il s'est dit... Hey, qu'est-ce que je peux faire de ma vie maintenant, là? Puis ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu qu'il rentre dans l'humilité, parce qu'il n'a pas retrouvé la job qu'il avait, il n'a pas retrouvé le même prestige, il n'a pas retrouvé... Mais en rentrant dans l'humilité, il a fait un inventaire des pistes d'action, il est allé chercher de l'aide, puis là, il a commencé à travailler en faisant d'autres choses que ce qu'il faisait, il est obligé de suivre des formations. C'est ça, passer à l'action. Puis là où j'ai pris, ça arrive quand j'ai... Faites l'inventaire de toutes les pistes d'action que je pouvais faire, là, puis que j'en ai plus. Alors là, je me rends compte que je suis devant une situation là que je peux pas contrôler. Là, je peux pas faire disparaître la COVID de la planète, moi, demain matin. Ça, c'est bien important que je m'en rende compte. Et il faut que je dise, je suis pas capable de faire disparaître la COVID de la planète demain matin. Et c'est là qu'il faut que je lâche prise sur l'hamster qui tourne, là. Ça finira jamais. On n'en sortira jamais. Ça, c'est faux. Toutes les épidémies dans l'histoire de l'humanité, on en est toujours sorti. Ça a toujours eu une fin. Le problème actuellement, c'est qu'on la voit pas venir, ce fichu fin-là, puis notre cerveau, là, il a l'impression que ça finira jamais.
Alors, et ce sera ma dernière question à vous, Dr. Marquis. Comment donc, sachant que après ça, là, il y en aura peut-être une autre, comment faire face à l'inconnu?
Ah ben ça, c'est une des plus grandes sources de stress, là, les imprévus, l'inconnu. C'est en ramenant notre attention dans le présent, sur ce que je suis en train de vivre maintenant, parce que devant l'inconnu, le cerveau va fabriquer les scénarios catastrophes. C'est ça qu'il va faire. Puisqu'il ne connaît pas, ben il va inventer le pire. Alors, pour éviter de rester dans le pire, de garder son attention dans le pire, il faut ramener avec son intelligence là, son attention dans le présent. Qu'est-ce que je vis présentement? Qu'est-ce qui me manque? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi de précieux que je veux protéger? Les aides que j'aime, ils sont encore là. Je manque-tu de quoi manger présentement? Non, j'ai ce qu'il me faut. C'est ça, avoir l'attention dans le présent, là. Constater ce que j'ai à ma disposition, ce dont je peux profiter. Là, je vais aller loin, puis il y a des gens qui disent parfois que je mets des lunettes roses, mais l'automne, il va être là, avec ses couleurs, etc. Je peux-tu aussi garder mon attention, même si c'est super difficile, pour savourer encore ça présentement, là, ces moments d'émerveillement que je peux encore avoir devant mes enfants qui continuent d'apprendre parce qu'il y en a qui sont retournés à l'école puis ils apprennent. Devant mon conjoint et ma conjointe qui est en train de trouver des pistes de solutions parce qu'il a commencé à faire du télétravail, puis il ne savait pas ce que c'était Zoom, puis Teams, puis il a appris ça. Il y a toutes ces choses.
Je vous entends, là, puis ça fait tellement beaucoup de changements. Là, vous venez de nous les aligner tous. Je trouve que. Là, c'est vrai, François Legault, là, ça y tente de nous leur dire aujourd'hui à 13h, mais il pourrait nous leur dire, là, on a été bon. C'est vrai qu'on a été pas pire de bon parce que il faut démontrer une grande capacité d'adaptation, puis c'est quand même assez le propre de l'humain. Il faut aussi mettre ça dans la colonne de, OK, notre pouvoir, là, c'est d'agir sur ça.
Et moi, j'ai vu une femme là extraordinaire dans Kamouraska cet été, là, qui avait un restaurant gastronomique, là. Ben, elle s'est retournée de bord, elle s'est acheté un four à pizza, tu sais, parce qu'il y a pas de la pizza. Ouais. C'est quand même pas. Il y a des milliers d'exemples comme ceux-là autour de nous présentement.
S'adapter, puis essayer de focusser sur le positif.
Puis moi, je dis le GBS, hein, parce que ça, c'est le gros bon sens, là. Il faut y revenir. On a utilisé beaucoup le GPS au cours des dernières années, puis on a oublié le GBS. Mais le GBS, il faut y revenir, parce qu'on a notre gros bon sens, ouais, qui est au chaque jour dont on peut se servir par rapport à ce qu'on a à faire au quotidien, dans l'inventaire des pistes, là, pour simplement savourer ce qui est disponible autour de nous, continuer à profiter des gens qu'on aime, etc. Là,
merci.
C'est là.
Eh oui, on a juste à le prendre. Puis on laisse le reste. Merci beaucoup, Dr Serge Marquis. Fabuleux.
Merci, Isabelle.
On va essayer de... Avec tous ces bons conseils, là, il nous a donné les techniques des deux colonnes. Hein, puis ça marche souvent. C'est règle de base, mais souvent, dans la vie, ça marche, ces affaires-là. Tu sais, prendre une décision, des fois, tu fais deux colonnes. Les pour, les contre. Mais ça ressemble un peu à ça, finalement. Vous mettez vos angoisses, vos peurs, vos inquiétudes. Puis de l'autre côté, ben, sur quoi vous avez le contrôle? On va s'arrêter ici. Après la pause, justement, au grand reportage ce soir, je veux que vous regardiez un documentaire qui a été fait par la réalisatrice Sophie Lambert, très intimiste documentariste, qui nous présente sa relation, justement, avec sa petite caméra de mars à juillet. Elle a filmé tout ce qui s'est passé dans sa vie. Vous savez, l'espèce d'entrée de la COVID comme ça. Et elle l'a documenté. Elle nous en parle tout de suite après ceci.